L'autre jour, j'étais en route, en voiture, avec ma femme. Nous avons beaucoup voyagé dernièrement, mais j'étais en route pour la Bretagne. Et parce que je suis un peu radin, j'aime pas payer trop les autoroutes. Et donc, je vais pas passer par le Havre et le pont de Normandie, parce que... Et donc, on passe par Rouen. Mais j'ai le GPS, et donc, voilà, ça va me guider. Et j'ai pas juste le GPS, j'ai ma femme à côté. Et j'ai pas juste ma femme à côté, j'ai regardé la route avant de partir. J'ai étudié, j'ai dit voilà, je veux trouver le bon chemin. Parce que moi, je suis vraiment un homme qui veut trouver le bon chemin. Pas juste sur la route, mais dans ma vie, bien sûr, comme nous tous. Nous voulons tous trouver le bon chemin. Et on l'a, tout allait bien. Je dis voilà, il faut suivre. Et tout d'un coup, le GPS a dit tournez à gauche. Si le GPS le dit, mais j'étais. Il faut suivre Elbeuf. Non, il faut tourner à gauche. Hein? Donc j'ai tourné à gauche. Après, il fallait tourner encore. Et mince, tout d'un coup, je ne sais pas si vous avez jamais ce sentiment quand. Vous savez que vous êtes sur le mauvais chemin. Mais c'est pas encore prouvé. Et donc, il y a une sorte de sentiment de malaise. On est mal dans sa peau et tout d'un coup. Et après, le stress. Pour moi, le stress commence. Sylviane! Sylviane! Qu'est-ce que t'as fait? Bon, c'était rigolo, mais tout d'un coup, on arrive. On est entré dans une cité. Il y avait toutes les gens qui barraient la route et nous regardaient. Qu'est-ce qu'il fait là? Je pense qu'ils faisaient leur petite business. Et donc nous, on était là, on arrive. On a dû ralentir. Oh là 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 là. Et je dis, mais Sylvain, on est où? Je sais pas, le GPS a dit de venir là. Et tout d'un coup, oh là 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 là, je me suis arrêté. J'étais perdu. Même avec toutes les préparations, tout ça, je sais pas, une erreur est venue. Une erreur est venue. Et vous savez le nom de la ville où on s'est trompé, là? Ça s'appelait Sotteville. Et je me sentais sot. Je pense que c'était vraiment prophétique. Et Sylvia n'osait pas me dire. J'ai dit, on est où? Sotteville. Et je ne sais pas si, avec toutes les bonnes intentions de bien rouler dans la vie, de trouver le bon chemin, Jésus, voilà, je veux te suivre, Jésus. Et tout d'un coup, un jour, tu te réveilles et tu es sot. Et tu te trouves à Sotteville. Je dis, ce n'était pas mon intention, mais je suis coincé à Sotteville et je suis en danger et je ne sais pas comment sortir. Et on était stressé, je tenais ma tête. Je dis, il faut pas quand même te mettre en colère contre ta femme. C'est pas sa faute. C'est parce qu'on veut toujours blâmer quelqu'un d'autre. Et là, j'étais vraiment stressé. Et bon, après, on a retrouvé le chemin. Alléluia. Mais après, on est arrivé en Bretagne. Et c'est dur en Bretagne de trouver le chemin. Et donc, quelquefois, on n'a même pas un signal GPS dans ces petits bleds. Et donc, tout d'un coup, oh, mais nous, on a des petits téléphones, nous. Et donc là, je devais aller chez quelqu'un. Je suis allé visiter un gars que je n'ai pas vu depuis 40 ans. Il faut imaginer, il y a 40 ans, j'avais 20 ans. Il y a 40 ans, je jouais au foot à Paimpol. Et à Paimpol, je fréquentais pas beaucoup l'église à l'époque, parce que je connaissais pas le Seigneur, et je fréquentais beaucoup les cafés et les bars et les boîtes de nuit. Et donc, j'aime Paimpol et la falaise, j'aime surtout, et tout le reste. Et bon, il m'attendait plus au Pays Breton, hein. mais bon, ce gars, c'était Jean-Jacques Razurel, un dentiste. Et je ne l'avais pas vu depuis 40 ans. Et il me connaissait comme le jeune homme de 20 ans qui fréquentait des bars. Alors là, je l'avais contacté par Facebook, sachant que j'allais être dans la région. Et, voilà, il m'a dit, oui, il faut me voir. Donc, je vois un gars, il n'a pas changé. C'était incroyable. Il avait 72 ans et il était en forme. Il faisait l'aviron à 72 ans. Ça m'a donné envie. Il avait la même tête. J'ai dit, mais c'est pas possible. Moi, je pense que moi, j'avais pas vraiment la même tête, tu vois. Mais il n'osait pas me demander qu'est-ce que je faisais. Je pense qu'il avait fait des recherches sur Facebook. Hein, j'ai une très forte traçabilité, moi. Si vous mettez Robert Hitt, c'est... Et donc, il n'osait pas. Et à un moment donné, il a dit, mais quand même, j'ai fait quelques recherches. Qu'est-ce que tu fais? Et après, j'ai expliqué, voilà, missionnaire, pasteur, dirigeant d'oxygène. Mais bon, c'était bien. On a eu une bonne discussion. Je lui ai donné mon témoignage. Et magnifique. Mais pour aller chez lui... Il était vraiment perdu aussi, le D12. J'ai marqué sur une carte, j'ai marqué sur un papier le D12, tu tournes à droite ici, donc je ne vais pas me tromper. Mais pour aller, c'était bien parce qu'il faisait jour. Mais on a mangé chez lui et en rentrant, il faisait nuit. Alors là, le D12, je l'ai trouvé. Ah, vite, tournez. Mais je l'ai pris en contresens parce qu'il faisait nuit. Et donc, encore là, j'ai eu le sentiment, oh, je me suis trompé de chemin. C'est sûr, est-ce qu'on a passé ça? Et quand c'est nuit, tu ne vois pas, tu n'as pas les mêmes repères. Et on a fait peut-être 5 km dans le mauvais sens. On est quand même sur le D12. Oui, D12, c'est marqué. Oui, mais tu es dans le mauvais chemin, le mauvais sens. Et après, bon, on a dû rebrousser chemin et tout ça. Et donc, pourquoi je dis tout ça? C'est parce que, bien sûr, dans la vie, on veut trouver le bon chemin. Je veux être un bon chrétien, je veux marcher Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Je veux être un bon chrétien, je ne veux pas faire des bêtises, je ne veux pas me tromper, je ne veux pas être comme le fils prodigue qui va, qui se perd et tout ça. Mais quelquefois, il y a deux choses quand même. Il y a des erreurs. Comme tout d'un coup, tourner à gauche. Tu ne sais pas pourquoi tu as tourné à gauche, mais tu l'as fait. Oh, la vie est comme ça. Quelquefois, tu vois une déviation pas prévue. Hein? Et ça arrive comme ça, c'est comme ça. Une erreur. Des erreurs arrivent. On n'est pas parfait. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tourne à gauche et tu te trouves à Sotteville. Voilà. Il y a des erreurs. Et après, il y a des ténèbres. Il fait nuit quelquefois sur ta route. Ça, c'est plus compliqué. Ce n'est pas ta faute qu'il fasse nuit. Moi, ce n'est pas ma faute. Et quelquefois, on prend un contresens. Parce qu'on est un peu aveugle. Prendre un contre-sens. Alors là, j'ai beaucoup appris, là, j'ai dit, mais les ténèbres et les erreurs. Les ténèbres et les erreurs de la vie. On est tous victimes de ça. Si quelqu'un dit, non, je suis toujours sur le bon chemin, chaque jour, non. Il y a une lutte quelquefois, surtout avec, quelquefois on ne voit pas clair. Même quand on essaie notre GPS, le Saint-Esprit, la carte, la Bible, le Saint-Esprit, même avec la Bible et le Saint-Esprit, on peut se tromper de chemin, quelquefois. Et il peut y avoir des ténèbres. Et donc, j'ai dit, mais comment est-ce que je peux trouver le bon chemin, Seigneur? Montre-moi, dans ma vie, parce que c'est horrible de se tromper. On n'est pas heureux, on est stressé, on est dans la crainte, on sait que ça ne va pas. C'est pas tellement juste mon chemin et ça crée un stress. Donc voilà, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, juste avant le chapitre 13, parce que je vais parler de l'amour quand même ce matin. Hein, c'est bien, vous avez chanté sur l'amour ce matin. Et donc, verset 31 de chapitre 12, c'est super, hein, j'aurais dû lire ça avant de partir hein, l'autre jour, mais il dit, je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et donc, je ne serais pas arrivé à Sotteville si j'avais trouvé cette voie par excellence. Et donc là, je veux trouver la voie par excellence. Et c'est un petit conseil pour ne pas se perdre dans la vie. D'accord? Si on peut trouver cette voie par excellence, c'est la bonne voie que Dieu nous montre. Et l'apôtre Paul ici, dit, je vais vous montrer cette voie. Et après, il continue son discours, il dit, voilà, parce que si on veut réussir dans la vie, on veut trouver le bon chemin, il faut avoir de bonnes paroles, n'est-ce pas? Parler comme un politicien, parler comme un pasteur,
Ah, je parle comme un homme, ou même comme un ange. Voilà, on peut séduire avec des paroles. Tu habites avec tes parents, Seigneur? Ah, t'es joli, t'es magnifique. Ah, là, 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 là. C'est les paroles où on peut dire, voilà, on va aller vers les jours meilleurs. Je vous promets mon et ma merveille. Hein, ouais, ouais, ouais. Les paroles. Ah, on est tous... On peut avoir des paroles pour réussir. Et c'est vrai, si on a une belle parole dans la bouche, hein, on peut aller loin. Et après, les paroles, qu'est-ce qui fait réussir la vie? Ah, la connaissance. Je connais, j'ai étudié, j'ai mon PhD, et même, j'ai pas juste une connaissance, j'ai une capacité de voir l'avenir, j'ai une intuition, j'ai la prophétie, je suis bien. Et après, pour ceux qui sont plus religieux, on peut avoir la foi. Pour réussir sa vie, il faut avoir la foi. Il faut croire, il faut dire cette formule magique. Croire, obéir. Tac, tac. J'ai la foi. D'accord, on peut avoir la foi pour réussir sa vie. Ou, on peut dire, si on veut vraiment réussir sa vie, il faut être un homme ou une femme d'action. Avoir cette capacité même de porter les charges lourdes, même transporter les montagnes. Et donc voilà. Paul, il dresse là toute une liste des choses qui peuvent ouvrir une voie peut-être par excellence. Mais finalement, il parle de ça dans le début d'un Corinthiens 13. Il dit, je peux parler des langues des hommes, mais si je n'ai pas d'amour. Et après, même si j'aurai le don de prophétie et la science de tous les mystères, la connaissance, et même quand j'aurai toute la foi, voilà, avoir vraiment une grande foi, jusqu'à transporter les montagnes. Waouh, un homme qui bouge les problèmes, c'est capable, l'entrepreneur dynamique qui bouge toutes les montagnes. Ah, c'est ça comment il faut réussir la vie. Non, 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 parce qu'il dit ici, si, même si j'ai toutes ces autres choses, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Waouh, waouh. C'est pas des belles paroles. Allez, hop, je prêche à moi-même. Hein. C'est pas des belles paroles qui te fait réussir, trouver le bon chemin. C'est pas parce que tu as bien étudié, même s'il faut étudier, même s'il faut. Mais c'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Et même, je dirais, même si tu as la foi, tu n'as pas l'amour, t'es rien. Tu vois, parce que si tu peux venir à l'église, faire un tas de trucs, mais si à la maison, tu es un tyran aussi, si tu n'aimes pas les gens, tu es en train de les critiquer, de les détester, tout ça, mais à quoi bon? Toujours en train de juger, oh, ils sont pas bons, blah, blah, blah. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Waouh, waouh. Et donc là, ça nous pousse à poser une question, mais qu'est-ce que c'est l'amour? Parce que ça, c'est cette voie par excellence, si je n'ai pas l'amour. Et donc, malheureusement, en français, on n'a qu'un mot, amour, et ça doit couvrir tout. Hein, c'est comme si tu as un peu de Nutella, la dernière petite partie de Nutella au fond du pot, et tu dois utiliser ce Nutella sur 5 tranches de pain, et c'est, tu dois l'étaler. C'est pas assez. Et c'est comme l'amour en français, un mot pour couvrir tellement de tranches de pain. Mais si tu étais en Grèce, eux, ils ont des grands pots de Nutella. C'est rempli tout le temps. Parce qu'eux, ils ont 4 mots pour amour. Ah, là, on va découvrir quelque chose maintenant. Si je n'ai pas l'amour. Et donc, 4 mots pour l'amour. Premier mot, eros. On connaît ce mot, eros, érotique. C'est bien. Moi, je pense que Dieu est aussi très favorable à ce qui est érotique. Il n'est pas contre le corps humain et tout ça. C'est bien. Mais c'est pas, si, il n'y a que ça. Et après, il y a un autre mot qui est storgé. C'est l'amour familial. C'est peut-être des pères. Papa, je t'aime. Oui, mon fils, je t'aime. Ou ma fille. Maman, je t'aime. C'est bon, l'amour, c'est famille. Après, filio, Ça, c'est l'amour fraternel. Rémi, je t'aime. C'est pas l'éros, hein? C'est même pas... Tu vois, je t'aime, c'est filio. Et après, agape. Agape, l'amour divin. L'amour divin. Robert, je t'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Dieu est amour. Ça ne veut pas dire Dieu est éros. Non. Dieu est agape. Et cet amour divin, infini, qui se donne. Et donc voilà, juste avec ces quatre mots pour l'amour. L'éros, je vais vous encourager, vous êtes nés avec. Vous êtes nés avec l'éros. C'est l'amour biologique qui est en vous. Vous allez voir, ting, ting, nong, les lumières, voilà. Merci Seigneur, j'ai rien à faire pour avoir l'éros. Quelquefois on a un peu trop. Il y a certains qui héritent plus d'éros que d'autres, mais bon, gloire à Dieu. Mais on est né avec ça. C'est en vous, l'éros. Et donc c'est un amour biologique, je dirais, même si ça doit être tous lié. Après, storgé, l'amour familial, c'est un amour d'instinct. On a un maman devant ça. Ah, il y a quelque chose d'instinctuel qui va pousser à aimer. Et donc, quelquefois, il y a des dysfonctionnements, mais voilà. Et après, filio, c'est comme des vignes, ça se cultive. Il faut faire un effort pour construire des relations humaines, sociales. Il faut faire un effort, ça se cultive. Mais l'agape, l'amour divin, il faut le recevoir. Juste dire, je reçois. Il faut beaucoup d'humilité finalement, parce que je vais faire moi-même. Non, il faut le recevoir. Et donc ça, c'est la voie par excellence, c'est de recevoir l'amour divin. Et donc, il faut quand même, je dis, mais qu'est-ce que c'est cet amour divin? C'est l'amour dont il parle ici. Si je n'ai pas l'agape, je suis rien. Il y a un vide dans ma vie. Je vais me tromper de chemin tout le temps. Si je n'ai pas l'agape, je vais me trouver à Sotteville toute ma vie. Et je vous déconseille de vivre à Sotteville. Et donc, on va voir, parce que c'est très précis. Paul définit l'agape pour nous. Et cette agape, c'est aussi une personne. C'est la personne de Christ, bien sûr. Mais il définit pour nous, pour que nous puissions recevoir l'agape. Verset 4, hein, c'est des versets très bien connus. Il dit, l'amour est patient. Patient. Ça veut dire ça supporte, ça est patient. C'est pas colérique. Les deux minutes. Mais patient. L'amour est patient. L'amour est serviable. Christos en grec. Christos. J'aime bien, c'est comme une boisson, Christos, qui rafraîchit. Christos. Mais c'était aussi le nom qu'on donnait, surtout à l'époque de Jésus, aux esclaves. Il y avait beaucoup d'esclaves qui s'appelaient Christos. Parce que Christos, c'était celui qui était très utile. Peut-être qu'il n'est pas ici, mais je dirais un Didier. Quelqu'un qui sait faire beaucoup de choses pratiques, mais qui fait avec gentillesse et joie. C'est un peu lié le service avec la générosité du cœur et d'être désintéressé. Serviable, Christos. Et je dis, mais le monde a besoin de Christos, les familles ont besoin de Christos, hommes ou femmes, hein? Hommes ou femmes. Christos, serviable. L'Église a besoin de Christos. D'être serviable. C'est les belles paroles, les connaissances, la foi, transporter les montagnes, mais serviable. L'amour est Christos, serviable. Il n'est pas envieux. Pas de concurrence, toute cette. Pour les hommes surtout, c'est testostérone. Je suis le meilleur. Non, tous les coqs dans les basse-cours. C'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. On fait pas des comparaisons. Tu es qui tu es. Voilà, reçois ça. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Et il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas.
Je me trouve à Sotteville en lisant toutes ces choses-là. Je dis, bon, mais Robert...
Et après, il dit, il ne médite pas le mal. Et une autre manière de dire ça, il ne tient pas compte du mal. Ça veut dire, il n'y a pas tout un livre, pas ce que les gens ont fait dans le passé. On retourne à chapitre 1. Quand j'avais 2 ans, ma mère m'a dit, t'es nul. D'accord, je lui pardonne. Je ne tiens pas compte. Quand j'avais ça, Oh, mais d'accord, ce n'est pas un problème de reconnaître là où on est blessé. Mais le problème... c'est de ne pas être capable d'effacer ça. Et c'est ça le sang de Jésus et la réalité de Christ dans nos vies. C'est même bien quelquefois quand tu te souviens de quelque chose, tu dis, ah mais ça m'a vraiment blessé. J'étais victime, c'était quelque chose de mal qui m'est arrivé. Mais il ne faut pas utiliser ça comme une sorte de médaille de victimisation. Il faut demander à Jésus de t'aider à l'effacer. Ou à changer la blessure en emblème de gloire. C'est ce qu'on a fait avec les blessures de Jésus dans le ciel. Les anges crient louange, adoration devant ces blessures transfigurées. Et on n'utilise pas nos blessures anciennes pour assommer l'autre. Ah, tu m'as fait ça. Bang. Je te pardonne jamais. Tu vois, c'est ah. Tu vois combien tu t'emprisonnes. Combien tu es 2 fois victime en ne pas pardonnant. Et donc, voilà, l'amour, il ne tient pas compte du mal. Mais tu dis, mais là, je ne suis pas capable, moi, de faire ça. Ou, comme on dit, l'amour dit aussi, il ne médite pas le mal. Et peut-être c'est une autre traduction, mais on peut dire que cet amour n'est pas en train de vouloir la vengeance. Parce que c'est bizarre quelquefois ce qu'on peut méditer. Bon, je vais vous raconter une histoire drôle, hein, parce que ça devient un peu sérieux, là, les gens, le mal, mon passé, tout ça. Mais c'est une vraie histoire, mais il faut m'excuser parce que c'est un peu cru, hein, mais c'est une vraie histoire. C'est que devant chez nous, on a refait des cailloux et c'est tout joli. Mais il y a les gens qui promènent leurs chiens. Et je ne sais pas quand ils le font, je ne les vois jamais, mais tout d'un coup, je trouve d'énormes crottes bien fraîches sur mes cailloux le matin. Et là, j'ai dit, mince, qui a fait ça? Et après, je faisais un petit jogging et je méditais ça. Et j'étais en train d'imaginer ma vengeance contre les gens. Je dis, si je trouve le gars qui fait ça... je vais prendre la crotte et je vais mettre ça dans leur visage. Non, mais c'est vrai. Je méditais ça. Je dis, je vais faire bouffer leur crotte là, tu vois. Mais j'ai médité ça en courant. Et après, je dis, non, je vais aller faire caca devant leur porte moi-même. Et après, je dis, non, je vais prendre la crotte, je vais mettre par la boîte aux lettres. Et tout d'un coup, Dieu m'a dit, mais Robin, tu te racontes? Ce que tu es en train de dire. Je dis, oh, c'est comme si je me suis réveillé. L'amour ne médite pas le mal. Tu vois, oh, mais moi, il m'a eu. Quelquefois, le Saint-Esprit m'a dit, il te prend en flagrant délit de, oh, je fais pas le mal, moi. Mais oui, mais tu médites beaucoup de mal. Là. Non, mais moi, j'ai jamais fait le mal, mais tu médites beaucoup de mal. T'as un esprit de vengeance. Et si tu fais ça le jour où tu trouves tout d'un coup le gars en flagrant délit, peut-être tu ne sais pas ce que tu vas faire. Si tu as déjà médité, après tu vas regretter. Oh pardon, je suis un pasteur, je ne devais pas mettre le caca dans ton visage. Mais bon, je ne pense pas que je l'aurais fait. Mais heureusement que le Saint-Esprit m'a attrapé. Et après il m'a dit, mais... Et après c'est profond, hein, je m'excuse pour l'image un peu pas très catholique, mais il m'a dit, mais tu sais... Mais c'est incroyable comment Dieu est. Il m'a dit, mon fils Jésus est venu ramasser les crottes du monde. Ramasser tes crottes de péché, ramasser tes paroles, ramasser tout ça. Il a fait, c'est pas lui qui a fait des crottes, mais il a fait, il a pris tout ça et il a effacé. Et quand j'ai eu cette révélation, j'ai dit, et il a fait avec joie parce qu'il t'aimait. Oh, wow, j'étais saisi. Et après, j'ai dit à Sylvie, j'ai dit, moi, mais la prochaine, laisse-moi ramasser ça. Et j'ai dit, moi, je vais bénir les personnes. Et même l'autre jour, j'ai dit, laisse-moi. Et c'est horrible, hein, tu prends le sac. Mais je l'ai fait avec joie, parce que Dieu a travaillé mon cœur. Et j'ai dit, je vais bénir les personnes. Peut-être une dame, qui, son mari est malade, elle promène son chien, tu vois, il n'a pas de temps. Tu vois, on ne sait jamais. Et donc j'ai dit, je vais bénir cette dame, je vais la bénir ou cet homme. Et même si je les trouve, j'ai dit, d'accord, je vais le faire pour vous. Tu vois, mais ça m'a libéré, je ne peux pas vous dire. Ça m'a libéré de... Mais c'est tout bête, hein. J'allais dire, c'était ma pierre d'achoppement. Tu vois, cette méditation, le pasteur qui médite la vengeance contre ceux qui mettent des crottes. Tu vois, mais quelle horreur. Moi qui veux toucher le ciel, prêcher la bonne parole, mais je suis en train de méditer tout ce mal. Et là, mais maintenant, vous pouvez venir faire vos crottes devant moi. C'est avec joie que je vais les ramasser. Moi, je l'ai fait une fois. Après, c'est Sylvain qui venait. Non, je plaisante. Non, mais je plaisante pas sur. C'est une vraie histoire. Il ne médite pas le mal. Et je sais que c'est très cru comme image, mais ça peut nous aider à comprendre la croix aussi. Toute cette œuvre de Jésus. Voilà, il ne médite pas le mal à lui. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. C'est l'amour et la vérité vont de pair. Quelquefois, la vérité est dure. La vérité peut être dure, mais l'amour et la vérité vont de pair. L'amour et la vérité vont de pair. Il faut dire la vérité. Avec amour, il est en Éphésiens. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Alléluia. Et cet amour qui ne succombe jamais, c'est l'amour de la résurrection. C'est l'amour incarné en Jésus, cet amour indestructible. Cet amour qui est allé jusqu'à la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. L'amour ne succombe jamais. Donc Seigneur, quand je lis tout ça, si vous dites après, si je ne vous demande pas de le faire, mais peut-être après, tu peux dire « je suis ». Au lieu de dire l'amour, tu dis « je suis patient ». Je suis serviable, je ne suis pas envieux. Et vous allez lire ça tout en écoutant votre cœur. Et peut-être certains, vous pouvez dire, oui, ouais, je ne mens pas là. Mais certains, tu vas dire, je pardonne tout. et d'un côté, bon, quand moi je lis ça, je me trouve à Sotteville. Je vais être honnête avec vous. Hein. Je perds mon chemin, je médite le mal, tout ça. Mais ce n'est pas pour vous condamner, c'est pour vous aider à dire, je reçois ton agape, Seigneur, parce que moi, je ne peux pas le faire. Et mon amour biologique ne va pas m'aider, l'éros, storgé, tout le reste, ce n'est pas suffisant. Même philo, j'ai besoin d'agape, Seigneur. J'ai besoin de recevoir cet amour qui est là dans l'Eucharistie, cet amour qui est là dans la parole, cet amour qui est là dans le Saint-Esprit, cet amour qui est là dans la personne de Jésus. Et chaque fois que tu dis, ah, demande à Dieu de te donner la garde. Tu trouveras le bon chemin. Quelquefois, tu vas dire, oh, je me perds là. Je ne suis pas dans la voie par excellence. Il y a la nuit, il y a des erreurs. D'accord. On peut toujours rebrousser chemin. Et après, bon, il nous donne 3 panneaux encore. Et je vais vous donner encore ces 3 panneaux pour trouver la bonne voie. Verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande, c'est l'amour. Mais il donne 3 panneaux encore pour trouver cette voie de l'amour. Et donc, l'espérance. 3 choses là. il faut passer de l'inquiétude à l'espérance. C'est quelque chose qu'on peut méditer et pratiquer. 4 heures du matin, on se réveille. Inquiétude. Ça va mal se passer, cet examen. C'est ma journée. Ça ne va pas marcher. On s'inquiète parce qu'on est responsable, souvent. Parce qu'on aime. Et quelquefois, l'amour suscite quelquefois l'inquiétude en nous. Mais quand vous avez des inquiétudes, c'est assez prophétique, l'inquiétude. Vous êtes tous des prophètes. Si vous avez un problème avec l'inquiétude, peut-être vous êtes au seuil de la prophétie. Mais il faut apprendre à changer l'inquiétude en espérance. Parce que l'espérance, c'est aussi un élément prophétique. Vous voyez, l'inquiétude prévoit une fin négative. D'ailleurs, ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Et l'inquiétude est toujours limitée aux forces humaines. Ce que moi je peux faire, ou à l'argent, ou à la santé humaine, toutes ces choses-là, c'est souvent lié uniquement à ça. Mais quand tu passes de l'inquiétude à l'espérance, l'espérance dit non, ça peut aller mieux. Et Dieu dans tout ça, et Dieu peut pourvoir, et Dieu peut guérir, et Dieu peut. Bon, je ne suis pas en train de promettre 100% victoire tout le temps, mais je suis en train de juste dire, fais l'effort de ne pas être bloqué dans le chemin de l'inquiétude, qui est un mauvais panneau qui vous met en bas. Et essaie de trouver le panneau de l'espérance, de bouger de l'inquiétude à l'espérance. Après, deuxième chose, il faut passer de la crainte à la foi. Parce que la crainte veut bouffer tout l'espace de la foi. Et on a peur, mais allez, passez à la foi. Et Jésus a dit devant le tombeau de Lazare, il a dit à Marthe, mais et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quelquefois, même dans les moments les plus difficiles, d'essayer de renouveler, de trouver la foi. Parce que la crainte encore, de vivre dans la crainte, c'est des choses très pratiques, hein, parce qu'on est confronté à l'inquiétude tout le temps. Mais au lieu juste d'accepter ça passivement, dire non, allez, je vais essayer l'espérance. Je vais essayer la foi. Ce n'est pas toujours facile à tous les coups, mais d'essayer de passer de l'inquiétude à l'espérance, de la foi, de la crainte à la foi. Et après, je dirais, de l'exclusion à l'étreinte. C'est quelquefois quand on ne se sent pas aimé, voilà, on est exclu, on est rejeté. C'est le propre de l'homme, nos expériences, toutes sortes de choses. On crée une exclusion sur nous, même dans la société. Et d'essayer de ne pas accepter l'exclusion et le rejet comme ma vie, mais de passer à l'étreinte du Père qui veut vous prendre entre ses bras d'amour. Et donc, pour terminer là, on va voir quelqu'un qui se trouvait à Sotteville, qui avait pris le mauvais chemin, mais quand même, il a su revenir et trouver les bras d'amour de son père. C'est le fils prodigue, hein, en Luc 15. Et un jour, il se trouve, parce qu'il a les ténèbres, les erreurs, et il se trouve parmi les porcs, couverts de boue, et il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Moi, j'aime bien dire, qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fais? Mais quelquefois, c'est bien d'arriver à ce point-là, quelquefois, mais qu'est-ce que je fais ici? Je me suis trompé de chemin, c'est terrible, je me trouve à Sotteville. Verset 17, Luc 15, rentrant en lui-même, il se dit, mais combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je péris. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils pour montrer la voie de l'amour, de la foi, afin que quiconque ne croit en lui ne périsse pas. Dieu ne veut pas qu'on se trouve à Sotteville, dans une famine. Qu'est-ce que je fous ici en train de périr? Et quelquefois je vois des gens, ils périssent dans leur misère, mais ils se sont trompés de chemin. Quelquefois quelqu'un a dit que le péché, c'est un bonheur qui se trompe de chemin. Moi, j'aime bien cette définition. Le péché, c'est un bonheur qui se trompe de chemin, parce que tout le monde cherche le bonheur, mais on se trompe de chemin. Mais je vais vous montrer une voie par excellence, Jésus-Christ. Et pas juste Jésus-Christ théorie, mais Jésus-Christ d'amour, en pratique, reçu par l'agape. Et qu'est-ce qui fait ce fils qui se trouve à Sotteville? Il dit, je me leverai, c'est ça, je me lèverai et j'irai vers mon père. Voilà, ce matin tu peux dire, voilà, je vais me lever et je vais aller vers mon père. C'est jamais trop tard. On peut toujours se lever et aller vers les bras d'amour. Et je lui dirai, Père, je suis super, c'est la faute de mon frère, c'est la faute de mon enfance, et là, 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 là. Non, Père, c'est ma faute. J'ai fait fausse route. Je me suis trompé, j'ai fait une erreur, j'étais dans les ténèbres. J'ai péché. Mon bonheur s'est trompé de chemin. Je change de direction. Pardonne-moi. Oh, quelle intelligence de dire ça. Mais c'est incroyable combien c'est dur quelquefois de dire je me suis trompé. Pardon. Père, j'ai péché contre toi. Tu sais, c'est ça qui ouvre la voie de recevoir agapé souvent. C'est pas de dire je mérite agapé. Je mérite. Non, Seigneur, je ne mérite pas. Je me suis trompé de chemin. Je suis perdu sans toi. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux recevoir ta grâce et ta vie. L'agapé est un don de grâce de Dieu. Et c'est magnifique parce qu'il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin. Oh, j'aime bien ça. Ça nous encourage. Tous ceux qui traînent en arrière, qui ne sont pas les super spirituels devant. Comme il était encore loin, bon, on n'est pas encore arrivé. Je n'ai pas l'agapé en perfection, mais même quand il était encore loin, le Père le voit. Il dit, voilà, tu as pris la bonne direction, mon fils. Et j'ai dit, même si tu n'es pas encore arrivé, prends la direction de l'agapé. Prends la direction de passer de l'exclusion et l'étreinte, de choisir l'amour, la voie, pas excellence. Et le Père, il voit son fils, il est touché de compassion. C'est quelquefois, les gens pensent que Dieu est en colère contre nous, perpétuellement. Mais la compassion est beaucoup plus forte que la justice dans le cœur de Dieu. Même si la justice est juste, compassion, c'est là. Dieu est un Dieu de compassion. Ça veut dire que ses entrailles sont là pour l'humanité, pas le péché. Il aime l'humanité. Et quand ce père-là est touché de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Ah, de l'exclusion à l'étreinte. C'est ça l'amour. Il se trouve en sécurité enfin. Protégé, aimé, entre les bras du père. Et le fils dit, ah, j'ai péché. Ah, mais ça va, ça va. On a sacrifié le veau gras. On a sacrifié plus qu'un veau gras. On a sacrifié Jésus-Christ sur la croix. Et à cause de ça, même si tu pues, même si tu es couvert de boue, même si tu es en haillant, même si tu es tout maigre parce que tu n'as pas mangé depuis longtemps, le Père dit, voilà, je ne vais pas regarder tout ça. Même si tu as tout gaspillé, parce que le Père aurait pu dire avant de l'embrasser, et cet argent que tu as gaspillé, et toutes ces fêtes, et toutes ces erreurs. Vous savez pourquoi? Parce que le sang du veau, là, quelqu'un a payé le prix. Parce que ce n'est pas qu'il devait ignorer l'horreur du péché, non. Mais quelqu'un d'autre a payé. Et quelqu'un d'autre a payé. C'est pourquoi quand le Père te voit, il ne voit pas tous tes péchés. Il voit son fils qui dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il voit le sang, il voit le sang, il voit le sang de l'agneau. Et il peut t'embrasser sans tenir son nez, sans dire « Voilà, mais parce que tu es transformé par cet amour. » Il t'aime et il te transforme par son amour. Et il met une bague, une alliance, il te revêtit d'une robe de justice. Et il met des sandales à tes pieds pour courir. Annoncer cet amour que tu as connu aux autres. Et donc, je vous invite à ne pas se tromper de chemin. À ne pas vous trouver à Sotteville Ou si vous êtes en route pour Sotteville, changez de direction. Et vous allez dire, voilà Seigneur, je veux suivre cette voie par excellence, qui est la voie de l'amour. Peut-être, je dois dire, Père, pardonne-moi, je reviens. Peut-être maintenant, je vais prier et tu peux, avec ces trois choses, hein, peut-être je peux juste terminer avec ces trois panneaux, où on va demander au Saint-Esprit de nous aider à passer de l'inquiétude à l'espérance, de la crainte à la foi et de l'exclusion à l'étreinte. D'accord ? Père, merci pour mes frères et sœurs ici. Merci pour cette grande compassion qui est dans ton cœur pour chacun ici. Et pas juste pour nous ici, mais pour le monde entier. Dieu a tant aimé le monde. Merci. Tu ne veux pas qu'on périsse avec les porcs, mais tu veux qu'on soit entre les bras du Père. Et donc, Seigneur, en priant pour nous-mêmes ce matin, nous prions aussi pour ceux que nous aimons. Seigneur, guéris-nous ce matin. Tu nous as déjà guéris par l'adoration, par la Sainte Cène. Mais continue de nous guérir maintenant par cette prière de foi, par ta parole. Guéris-moi, Seigneur. Je veux recevoir l'amour. Je veux recevoir l'agape dans mon cœur. Renouvelle-moi dans cette agape, Seigneur. Rends-moi serviable. Donne-moi un cœur qui pardonne, Seigneur. Aide-moi à ne pas méditer le mal et tout ça. Oh Seigneur, aide-moi. Je reçois la grâce. Et Seigneur, maintenant, je choisis de quitter l'inquiétude et d'aller vers l'espérance. Je choisis de quitter la crainte pour aller vers la foi. Et je choisis maintenant de quitter ce pays d'exclusion et d'aller vers les bras d'amour de mon Père Céleste. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit vient comme des bras d'amour sur moi maintenant pour m'inviter à la danse, à la fête, à la communion, à l'agape, à l'amour. Au nom de Jésus.